voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Bruno Sirven est géographe, spécialisé dans les domaines du paysage et de l'environnement. Il se consacre depuis une vingtaine d'années au développement de l'arbre au sein de l'équipe Arbre et Paysage, une structure de terrain qui assure des missions de conseil, d'information et d'études qui met en œuvre divers programmes d'arbrement du territoire. Rencontre avec Bruno, l'auteur du livre « Le génie de l'arbre ». Bruno Sirven, donc avec nous, un bouquin sur la table, « Le génie de l'arbre », on en parlera plus tard, mais je vais d'abord laisser la parole libre. J'aimerais, Bruno, que tu te présentes.
Alors moi, je suis gersois, comme je le disais, mais je suis surtout géographe de formation. Je ne me destinais pas forcément à m'intéresser aux questions de l'arbre, je m'intéressais à une question un peu plus large et très très voisine, qui est le paysage. Mais très vite, j'ai été, entre guillemets, amené, presque obligé à m'intéresser à cette question-là. Et aussi parce qu'il y a 25 ans maintenant, j'ai souhaité travailler dans une association qui était en plein développement et en être toujours salarié, qui s'appelle bien nommé Arbres et Paysages du Gers. Et donc, qui fait le lien entre l'arbre, c'est-à-dire un objet, entre guillemets, qui n'est pas la forêt, on en parlera, et le paysage, c'est-à-dire son importance dans tout ce qui est l'environnement et de cet environnement lui-même, bien sûr.
Je veux bien qu'on développe le mot paysage. Dans paysage, il y a pays.
Il y a pays et puis il y a surtout la notion d'interaction. Et d'ailleurs, l'arbre nous montre très bien cette idée d'interaction. L'environnement ne fait pas que le subir passivement, on est aussi acteur. Et la question du paysage, c'est ça. C'est à la fois... quelque chose qui est matériel, physique, qui nous entoure souvent, dont on peut en avoir la perception, d'une part. Deuxièmement, c'est le regard que l'on porte dessus, affectif, culturel, tout ce que l'on veut, qui parfois peut être même très délirant. Donc une réalité, le regard que l'on porte dessus, et encore et surtout, l'action qu'on peut mener sur ce paysage, que ce soit par la décision, par l'aménagement, par la gestion, par tout ce que l'on veut. Et donc le reflet de cette interaction qui existe entre quelque chose de physique, de concret, l'environnement, la nature, le pays, le territoire, et nous, société ou individu, et les deux à la fois, comment on peut ressentir et surtout décider. Alors voilà, dans la notion de paysage, et on va retrouver ça dans la notion de l'arbre, il y a quand même cette notion d'action et non pas de fatalité, voilà. De fatalité.
Si on s'intéresse au volant historique du paysage, à partir de quel moment l'homme a commencé à forger les paysages autour de lui ?
Alors, beaucoup de choses là-dessus. On pense que le paysage est une invention récente, c'est-à-dire justement cette interaction qui existe entre... je pense que depuis que l'homme existe, le sentiment d'être au monde existe. Donc le paysage a été inventé, certainement pas sous des formes que esthétisantes comme nous l'a montré la peinture, mais ça a été inventé en même temps que l'homme, de fait, obligatoirement. C'est justement ça l'enjeu, c'est que c'est sans doute une des parts les plus humaines qui puisse y avoir dans nos territoires. Et nos territoires qui parfois sont en train de perdre de l'âme, mais c'est l'âme humaine qu'ils sont en train de perdre. Donc là, je m'égare un peu. Ensuite, souvent, on peut faire une corrélation entre le climat, alors ça aussi c'est un sujet d'actualité, et le paysage et l'économie humaine, parce que effectivement, tout au long de l'histoire, le paysage a évolué par à coup en fonction de ces pulsations climatiques. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les pulsations climatiques, mais c'est souvent, on parle de glaciation, de réchauffement, etc. C'est en fonction de ça, dans l'histoire même très récente, depuis 3000 ans, ces variations climatiques qui ont vraiment fait qu'il y a eu le printemps médiéval, qu'il y a eu sans doute le déclin de l'Empire romain. Il n'y a pas que ça, mais ça a beaucoup, beaucoup influencé, qu'il y a eu des petites aires glaciaires, ou des petits âges glaciaires, pardon, avant la Révolution française, etc., etc., et même avant. Bon. Vous voyez, c'est le paysage existe depuis toujours, depuis...
Mais quand on parle de paysage, il a forcément été façonné par la main de l'homme, ou du tout ?
Non, par contre, l'homme est toujours dans le coup. Sinon, ça s'appelle l'espace, ça s'appelle l'environnement. L'homme est dans le coup parce que, même s'il ne fait rien, il en est au moins observateur. Donc, pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait une relation minimum de ressenti, de perception, d'être immergé dans un lieu. Voilà, même s'il n'y fait rien. Mais, je le répète, l'homme peut être ou simplement observateur ou spectateur, mais encore et surtout acteur.
Toi, Bruno, tu disais que tu t'es d'abord intéressé au paysage avant de t'intéresser à l'arbre. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le paysage ?
Bah, c'est tout simplement c'est ma façon d'être. C'est-à-dire, j'ai une vision, l'échelle de mon regard, c'est plus du macro. J'aime bien me balader avec des gens qui sont dans le micro, dans l'observation micro, pardon, c'est-à-dire les insectes, etc. Parce que ça, c'est pas mon premier regard. Il faut qu'on m'en montre. Par contre, à l'inverse, je suis assez prédestiné, je dirais, à avoir une vision macro et surtout à m'interroger sur les liens qui existent entre ce que je vois. C'est ça, en fait, le paysage. C'est les liens qui sont entre les choses. C'est pas de raconter que devant nous, c'est le cas, il y a un arbre, après une pelouse, après il y a un banc. Ça s'appelle pas du paysage. Mais de comprendre et d'essayer de voir, en toute humilité, quels sont les liens qui existent. Et ça, c'était ma façon d'être. Et après, moi, les arbres, j'aimais bien les regarder, mais en toute incompréhension. Ça ne m'intéressait pas de savoir, j'étais obligé de l'apprendre, mais quelle était l'espèce que j'avais devant moi, quelle était... J'aimais voir avec ce mystère-là. Mais bon, maintenant... Mais pour le coup, chez nous, en Europe, c'est facile de connaître les arbres parce qu'il n'y en a que quelques dizaines, 140 à 200 espèces d'arbres et d'arbustes, c'est déjà beaucoup. Alors que si je me baladais sous les tropiques, je serais beaucoup plus modeste. Et puis surtout, sous l'équateur, je serais incapable, parce qu'il y en a au moins 1000 fois plus d'espèces. Donc là, voilà. C'est ça mon parcours, cette idée de... Et puis quand on parle d'un paysage vivant, un désert est un très beau paysage, c'est un paysage qui existe. C'est un milieu plutôt qui existe, mais si on veut que le paysage soit vivant, sans la plante, c'est très très difficile, où il est très peu vivant, très peu vivant en masse, en biomasse, très peu vivant en diversité, souvent, en biodiversité, et disons plus sévère, plus on a de chances d'avoir de la vie, et c'est pour ça que ça intéresse théoriquement l'agriculture, qui est du vert. Et l'arbre, dans ces histoires de plantes, c'est un être absolument extraordinaire, parce que c'est une plante qui a des effets beaucoup plus développés qu'une herbe, parce que c'est une plante qui est plus haute, plus grande.
On parle de plante pour un arbre ?
Bien sûr. Si, pour faire une catégorisation un peu simpliste, on pourrait diviser le règne végétal en deux grosses catégories, arbre et ligneux, et herbe, au sens générique du terme. Voilà. Et c'est vrai que quand on réfléchit, l'arbre c'est une plante dure, durable, pérenne, elle est là un moment par rapport à l'herbe qui a beaucoup d'herbe en tout cas, et géante, durable et dure, c'est-à-dire que c'est du solide et ça va intéresser plein d'animaux, ça va intéresser tous les enjeux que l'on se doit de relever. Aujourd'hui on parle de perte et d'érosion de sol, de déficit d'eau, de problèmes climatiques, de biodiversité, etc. Ben, quand on a la chance d'avoir une plante qui a ces effets-là, augmentés, et qui interagit, je répète, avec tous ces cycles-là, on a beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir activer ce qu'on pourrait appeler une fontaine de vie. C'est-à-dire, et là, les civilisations traditionnelles ne sont pas trompées. La plante, et notamment l'arbre, c'est une véritable biopompe. Ça fait plus que la fertilité, je dirais. Ça active tout ce qu'il faut pour concocter, et c'est presque de l'alchimie, et fabriquer de la vie. C'est pour ça qu'on parle dans la littérature, même la plus scientifique, de miracle de la photosynthèse, parce que quand on réalise, c'est vrai que c'est extraordinaire.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Un arbre raconté, d'abord, dans un premier temps, à un enfant. Quand un enfant va te dire « Bruno, dis-moi ce que c'est qu'un arbre ».
On va reprendre un peu ce que je disais, mais d'une autre manière. C'est de dire, voilà, l'arbre, il y a tout ce que l'on voit, et surtout, comme dans beaucoup de domaines de la vie, il y a beaucoup d'invisibles. Alors, pas forcément d'imperceptibles, mais d'invisibles. Alors déjà, tout ce qui se passe, et ça, les enfants, quand ils entendent ça les interroge, tout ce qui se passe avec l'air. Donc, cette relation avec l'atmosphère, oui, mais avec le ciel aussi, qu'on ne voit pas. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à détecter des ondes qui viennent parfois de très loin dans l'espace, etc., qui vont interagir. Alors déjà, ça, on ne le voit pas. Et puis surtout, ça respire beaucoup de carbone, beaucoup d'air, et ça en donne beaucoup. Donc ça, on ne le voit pas non plus. Ça bouge tout le temps, un arbre. C'est quasiment imperceptible quand il n'y a pas de vent, mais ça bouge tout le temps. Ça émet plein de choses qu'on ne voit pas. Et évidemment, toute la partie invisible qu'il y a en sous-sol. Et là, il faut imaginer tout ce qui se passe, et imaginer d'autant plus que même la recherche et la science a encore beaucoup, beaucoup à découvrir de ce mystère du sol. Donc, du sol et de la terre. Alors, j'aime bien dire, c'est certes poétique, mais l'idée de ciel et de terre, parce que c'est exactement ça. C'est pas que l'atmosphère et la lithosphère, ça va beaucoup plus loin que ça. Une anecdote, peut-être que je pourrais le raconter aux enfants, mais ça, je ne l'ai pas encore fait. L'idée que, par exemple, avec un arbre, on peut prédire, et c'est ce que font les Japonais, un tremblement de terre. Et ce n'est pas de la magie, c'est parce que quand des plaques ou quand il y a des forces qui s'affrontent dans les tréfonds de la lithosphère, ça dégage des ondes électromagnétiques que l'arbre peut ressentir et pas nous. Et peut-être certains animaux aussi. Et qui font que l'arbre va avoir une certaine vibration qu'on peut enregistrer avec les nouveaux appareils de la technologie, hein, parce qu'autrefois on n'arrivait pas à le lire, mais maintenant la technologie nous aide à lire plein de choses. Voilà, alors c'est tous ces mystères-là. Et je pense que ce mystère que l'on comprend de mieux en mieux, mais qui ouvre vraiment des perspectives, c'est ça qu'il faut traduire. C'est un peu l'incarnation du mystère de la vie, avec tout ce que ça a aussi de plus concret. C'est ça qu'il faut montrer aux enfants. Alors un arbre, c'est magique, voilà, mais magique pour de vrai. Y compris pour les scientifiques qui les étudient de près, ce qui n'est pas mon cas.
Et pourquoi est-ce qu'on parle énormément de l'arbre aujourd'hui? Plusieurs bouquins en parlent, l'intelligence de l'arbre, la communication des arbres. J'ai l'impression qu'il y a un engouement du grand public pour les arbres aujourd'hui.
Pour plusieurs raisons, j'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je pense qu'il y a un inconscient qui revient à grands pas, parce qu'on se rend compte qu'on est, même si on ne le réalise pas vraiment, dépendant de la nature. Et je le répète, l'arbre va... Il symbolise et vraiment concrétise ce besoin. On le sait depuis toujours, il y a eu des textes magnifiques qui ont été écrits là-dessus, même à l'époque antique. Il y a des textes qui disent carrément, je pense à Michelet, qui disait que l'arbre est le frère de l'homme, ou l'inverse, mais de manière très objective, hein, c'était pas que de la poésie. Bon, donc ça c'est une chose. On reconnaît, voilà. Et on reconnaît parce que souvent on en a peur. Donc ça c'est une chose qui est importante. La peur de l'arbre, c'est aussi sans doute quelque chose d'inconscient, mais on a peur que la nature nous envahisse, que la ronce vienne pousser au-dessus de nous, que l'arbre vienne pousser. C'est son boulot à l'arbre, hein, de dominer. Alors pas de dominer au sens péjoratif, mais d'aller plus haut chercher plus de choses. On a peur de ça. On a peur peut-être de la forêt, chez nous, notamment en zone tempérée, où sous nos forêts, il n'y a pas grand-chose, contrairement aux forêts équatoriales. On a peut-être peur de ça. Donc la peur de l'arbre. Et puis surtout, les choses, on les réalise et on les estime que quand elles disparaissent. Alors souvent, je pense qu'il y a quand même de ça. On se dit, mince, ben, j'ai plus d'arbres autour de chez moi. Je suis de plus en plus citadin, je parle de notre société. Et voilà. Donc il y a peut-être tout ça. Et alors l'arbre, on en parle beaucoup, mais quand même on parle beaucoup plus des forêts, ce qui est extrêmement important, surtout à l'échelle planétaire. Et on parle beaucoup des forêts exotiques qui sont très belles, des boisements, enfin des bois ou des arbres qui sont à l'autre bout du monde. Mais malheureusement, bien que ce soit à la mode, on oublie de regarder l'arbre qui est juste à côté là, de nous, qui marche tout seul, qui a souvent poussé tout seul, qui accomplit quotidiennement ce miracle. Et puis on oublie de voir ces arbres qui, depuis 400 millions d'années, puisque les premiers arbres ont été là, sont tout le temps en transition. Alors on parle de transition énergétique, écologique, etc. Ben eux, c'est vraiment notre... nous montrent ça. Voilà. On parle beaucoup d'arbres pour ces choses-là. Et, Et peut-être que malheureusement, c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce qu'il y a un certain nombre de choses que je vous ai dites là, il y a 15 ans, j'étais pris pour un fou, hein, et bien d'autres. Mais là, on peut les dire de manière tout à fait naturelle, et heureusement. Par contre, on en parle beaucoup, mais les actes ont du mal à suivre.
Comme dans beaucoup de domaines, finalement. Bruno, ce que j'aime avec toi, c'est que tu es en train de redonner sa dimension un peu divine et cosmique à l'arbre, qu'on a souvent tendance à banaliser, hein, parce qu'il fait partie de notre quotidien, il est là, qu'il soit là ou pas, on a l'impression que finalement ça changera pas grand-chose, alors qu'en fait pas du tout. Donc j'aimerais que tu nous racontes quelques histoires d'arbres, pour nous faire un peu rêver. Des histoires, t'en as lancé quelques-unes par rapport au tremblement de terre au Japon, j'imagine que dans ton bouquin on pourra peut-être en trouver d'autres.
Raconter les histoires d'arbres, c'est compliqué. Alors, je conseille la lecture de personnes comme Francis Allais, qui est un très bon spécialiste de l'arbre. Il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Alors lui, pour le coup, il connaît plein d'histoires, mais, enfin, scientifiques, mais qui sont vraiment extraordinaires. Ernst Jurcher aussi, qui a écrit « L'arbre entre visible et invisible », il y a un certain nombre d'histoires. Après, c'est très compliqué, j'en donnerai une ou deux, mais de voir comment... c'est très difficile d'envisager la plante, le règne qui n'est pas animal, disons le règne végétal, qui est vivant, pleinement vivant, qui est en pleine interaction, comme nous-mêmes, animaux ou humains, avec son environnement, et peut-être de manière encore plus forte, puisque les plantes sont immobiles. Et de réaliser que cette façon de vivre, elle est toute autre. Mais elle est autre, c'est-à-dire qu'on lui prête beaucoup de choses à l'arbre, qu'il peut communiquer, etc. Oui, mais avec nos grilles de lecture à nous. Et ça, c'est très très difficile. C'est pour ça que c'était un peu poétique ce que je racontais, jusque-là, mais c'est parce que c'est différent. Et donc on va prêter des mots comme intelligence, oui. Quand on est capable de ressentir et de réagir à son environnement, c'est une intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec notre intelligence à nous. Et dans nos pratiques. Donc tout ça est très très compliqué. Mais par contre, ce qui est sûr, et les histoires d'arbres, elles tournent un peu là autour, c'est que l'arbre donne accès à des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Alors si on sait se mettre en relation avec lui, quand je parle de relation, ça peut être de manière très concrète. On va parler d'agroforesterie, on va parler de tout ce qu'on fait avec un arbre, en aménagement, en bois, tout ce qu'on peut faire, hein. Mais à ce moment-là, on va avoir accès à plein de choses. Alors des histoires, il y en a plein. Par exemple, que certains arbres sont de véritables précurseurs parce qu'ils vont aller chercher l'eau en profondeur dans les oasis et la remonter. On parlait tout à l'heure de pompes, mais là, on a aussi des véritables pompes hydrauliques. Ils ont cette capacité à aller loin et à faire remonter à la surface l'eau qui est inaccessible. Elle est inaccessible à nous. Alors quand on creuse un puits, on peut y arriver, mais elle est aussi inaccessible à la plupart des êtres vivants. Voilà, par exemple, c'est une histoire qui est tout à fait concrète, qui n'est pas... Et après, les arbres sont effectivement en pleine capacité de ressentir leur environnement. Ils sont capables de se protéger du feu, tout simplement parce qu'ils arrivent à sentir la chaleur et à ce moment-là, à déclencher... Je parle par exemple d'une étude assez récente en Catalogne où il y a eu un gros incendie dans le milieu méditerranéen et les seuls arbres qui sont restés, ce sont les cyprès. Et pourquoi ? Ben, on ne savait pas, parce qu'un cyprès, on a l'impression quand même que ça peut brûler. Mais parce qu'à l'approche du feu, surtout s'il est sous le vent, ben, il sent qu'il y a du feu. Et donc, il va dégazer tout ce qui est inflammable et donc se protéger de cette manière-là, même s'il va subir le feu. Donc, voilà, des histoires comme ça, il y en aurait... Alors, en plus, je vous dis, c'est pas moi le plus... Je ne suis pas le plus à même de les... J'en connais quelques-unes, mais des histoires, il y en a. Vous voyez, on parlait des séismes, on parlait... Il y a plein de choses comme ça.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Sous nos yeux, le bouquin, Le génie de l'arbre. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre, publié chez Actes Sud ?
À Arbres et Paysages, nous avons eu la chance, depuis 25 ans, notamment avec mon directeur Alain Canet, de croiser plein de gens. Alors, on a croisé plein de gens ici, notamment les agriculteurs, mais plein d'autres ici. On a croisé aussi des artistes d'ici et d'ailleurs. On a croisé plein de scientifiques, plein de gens qui sont intéressés par l'arbre. On a fait une petite croisade aussi, on est allé voir au tout début nos structures homologues, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui savaient plein de choses sur les arbres, mais que tout ça était un peu... surtout le domaine de l'arbre, je le répète, pas celui de la forêt, et que tout ça était un peu cloisonné, et puis surtout, parfois, difficile d'accès, parce qu'il fallait être initié, et voilà. Et puis les rencontres, surtout les rencontres. Et donc, au bout d'un certain temps, on s'est senti en responsabilité d'avoir beaucoup de documentation, les publications, des choses comme ça qu'on avait achetées ou qu'on avait trouvées, d'avoir eu beaucoup de témoignages, beaucoup d'idées, beaucoup de brassages d'idées. Et on s'est dit, bon, ce truc-là, ça n'a pas le droit de roupiller, parce qu'on s'est trouvé à ce nœud-là, on n'est pas les seuls. Hein. Mais on s'est dit, au même titre qu'un arbre, il va falloir transmettre ces choses-là, les redigérer et les transmettre, et essayer de faire un document qui synthétise tout ça. Et donc, au fur et à mesure, on s'est posé des questions, et comment traduire tout ce message. Et cet ouvrage, Le génie de l'arbre, ça parle effectivement de tout ce que l'arbre génère et de tout ce qui caractérise un peu sa magie, hein, on en parlait. On a surtout voulu parler des paysages d'arbres lorsqu'ils ne sont pas forestiers. On a voulu parler des usages de ces arbres de manière dans les territoires, hein, pas que du bois, etc. Non, mais en quoi l'arbre est-il utile, voire indispensable dans les territoires, près de la maison, près de la rivière, au bord des routes, bon, c'est pas les titres, hein, partout, voilà. Et surtout, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, qu'il fallait peut-être, mais justement, on en a un peu parlé, raconter ce que l'arbre était comme être autre, et surtout, qu'est-ce qui l'amenait. On a parlé tout à l'heure des différents cycles, etc. Qu'est-ce qui l'amène? Qu'est-ce qui fait que l'arbre est un être un peu exceptionnel, et en quoi, voilà. Donc, on a fait une synthèse. Quels sont les différents visages de l'arbre? Première partie. Deuxième partie, dans quel paysage ces arbres non forestiers on va les rencontrer? Ces haies, ces bosquets, tout ce que l'on veut, ces alignements de rues, ces parcs urbains, et d'en raconter l'histoire, et du pourquoi. Et, voilà. Et ensuite, donner des tuyaux, l'arbre en ville, l'arbre à la maison, l'arbre, voilà, qu'est-ce que ça représente, là aussi, en faire un peu l'historique, et l'arbre en agriculture, bien sûr, mais là, je laisserai plus la parole à Alain, le pourquoi du comment, et aussi les promesses d'avenir que ça contient.
On n'a pas parlé de l'association Arbre et Paysage.
Alors, Arbre et Paysage, c'est une association qui milite beaucoup pour les questions, modestement, d'arbres et de paysages aussi, donc de territoire, c'est vrai. Mais qui a été, contrairement à ce qu'on pourrait penser, créé et initié par des agriculteurs. Alors souvent, on pense que des structures comme les nôtres pourraient être plutôt nées d'un courant naturaliste, écolo, etc. Mais d'ailleurs, ça ne pose pas de soucis. Mais nous avons développé ces questions de l'arbre par l'approche fonctionnelle, technique, économique. Par les agriculteurs qui savaient plus quoi faire, parce qu'ils n'étaient plus paysans. Autrefois, l'arbre était directement intégré dans le système de production. Ou alors qui sont arrivés, ou qui eux-mêmes, d'ailleurs, ils le disaient, avaient fait fait en sorte que l'arbre déserte leur exploitation. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais comment on peut faire? Parce qu'on ne va pas refaire de la forêt, mais on voudrait refaire du bocage, de la haie, de l'alignement, etc. Ils se sont réunis. Ils ont, entre guillemets, bricolé, alors les tout premiers bricolages, mais ce n'est pas péjoratif, bricoler. C'est parce qu'ils s'étaient associés avec les forestiers, etc. C'était même assez technique. Dès les années, alors, les toutes premières plantations, c'est les années 83. Et après, en 90, c'est une association avec beaucoup de bénévolat. Et très vite, en 95, il y a eu des programmes qui ont permis de vraiment sensibiliser et mettre en place des aménagements. Et c'est là où ça s'est beaucoup développé, où plusieurs salariés sont arrivés. Et maintenant, nous sommes une dizaine permanents. Et nos premières actions, c'était surtout, et on est identifié comme ça, alors qu'on va bien plus loin, sur la plantation de haies. De haies composées, de haies bocagères, de haies champêtres. Et alors que notre action, elle va au-delà, comme je le disais, et puis surtout, déjà, de se préoccuper de ce qui existe, et puis aussi de ce qui peut pousser tout seul. Et de ne planter qu'en dernier recours, lorsqu'on n'a pas le choix. Voilà d'où nous venons, et ça fait bientôt 35 ans, si je calcule bien. Mais donc c'est un peu normal, et on a d'autres homologues en France hein, que l'arbre retrouve un peu sa place depuis cette époque-là.
Tu fais bien la différenciation entre arbre et forêt. Tu peux nous expliquer cette différence?
Déjà, c'est deux choses complètement différentes. Un arbre, quel que soit son compagnonnage, hein, s'il est en haie, s'il est en forêt, s'il est en bosquet, en aliment, etc., il y a quand même cette notion d'isolement et de diffusion, surtout. Donc, ça ne fonctionne pas de la même façon. Une forêt, c'est à partir d'une certaine masse, là, une forêt, l'arbre n'existe plus dans la forêt. C'est une entité supérieure qui le dépasse. Et donc là, tout le monde palpite un peu de la même façon, tout le monde vit un peu de la même façon. Alors qu'un arbre champêtre ou agroforestier ou même une haie, ça fonctionne de manière très différente. Donc il y a souvent moins de complémentarité. Mais en même temps, c'est l'idée extraordinaire de pouvoir offrir au paysage ce qu'on appelle les effets de lisière, c'est-à-dire des effets de contact qui font que quand vous avez une grande forêt, l'endroit les endroits les plus riches sont les bordures, la lisière, la canopée, et même dans le sol, c'est la même chose. Mais quand vous avez plein de petites forêts, vous multipliez ces surfaces de contact qui vont donner plus de richesse. Voilà. Alors ça, c'est ce qui différencie. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça veut dire que c'est différent. Mais c'est vrai qu'une forêt, c'est une entité autre. Là, on passe un cran au-dessus. Tout à l'heure, je disais, l'arbre, ça donne des effets augmentés. Et là, ça va encore augmenter ces effets augmentés par un effet de masse. Et c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, on réfléchit avec d'autres personnes qui s'intéressent, ou spécialistes, qui s'intéressent aux arbres. Moi, je ne suis pas spécialiste, je suis plutôt généraliste. À essayer de traduire un peu cette notion de forêt, qui est particulière. Il y a beaucoup d'écritures là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment particulier. L'idée d'avoir de la forêt, c'est d'avoir vraiment une grosse puissance de frappe pour générer la vie, mais dans les milieux qui peuvent recevoir ça. Tous les milieux ne peuvent pas recevoir une forêt. Et nous, qui sommes obligés d'avoir des espaces ouverts à la lumière pour cultiver, on ne pourrait pas cultiver sous les forêts, on essaye d'avoir de multiplier cet effet de forêt, de le diffuser, et de doser ça, hein, c'est un réglage permanent, et c'est bien l'objet de l'agroforesterie, hein, lorsqu'on parle d'agriculture, pour pouvoir profiter de cet effet positif de l'arbre, donc pas de règles, que des réglages en fonction des terroirs, des lieux, etc., et de profiter de cette biopompe, de cette pompe à fertilité pour l'ensemble de l'agro-système, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est tout à fait différent, mais c'est pas contradictoire. C'est complémentaire, on ne peut pas vivre en forêt partout, mais on ne pourrait pas vivre non plus. Voilà. Donc nous, notre idée dans nos pays, disons européens, mais ailleurs dans le monde, l'idée c'est entre désert et forêt, ben, une fois de plus, c'est pas la fatalité. On a le choix. Et ce choix, il nous est un peu imposé quand même, c'est en fonction des ressources et des possibilités de partage qu'il y a dans chaque lieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous, humains, on peut, en s'associant avec la plante et avec l'arbre, développer cette capacité. Et combien d'exemples on a dans le monde aujourd'hui encore, et ici on vit sur cet héritage-là, et encore ça existe, hein, combien se montre que cette pratique paysanne, cette association entre le génie végétal et le génie paysan, et le génie du lieu, le génie au sens de ce qu'il peut générer et donner, ben cette association-là, ces trois choses-là qui tournent, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et que nous, humains, on est capable d'augmenter aussi, de prolonger, parce qu'on peut gérer plus, on peut trogner les arbres, je pense qu'Alain en parlera, on peut profiter de cette fertilité, bien la placer, on peut, voilà. Et on peut, la nature est très très généreuse, mais on peut la rendre encore plus généreuse si on sait l'accompagner.
Si on s'associe à elle et si on ne s'oppose pas à elle.
Oui, oui. Alors quelquefois, il faut un peu s'opposer. Quand on va voir un champ, bon, il faut se dire, bon, on ne va pas laisser pousser les ronces. Mais ça ne veut pas dire, la renier, ça veut dire partager là aussi et lui laisser la place ailleurs, et voilà, une juste mesure, c'est toujours pareil, cette mesure, et puis aussi se rendre compte de ce que c'est, là aussi ce que nous montre l'arbre, c'est-à-dire c'est que il faut s'adapter, mais tout ça c'est une co-adaptation permanente, c'est pas tiens toujours pour toujours on fait ça, non. C'est que cet équilibre et ce réglage-là, il est tout le temps en évolution. Alors, ce n'est pas forcément très violent, mais toujours, toujours être dans une... Et c'est comme ça qu'on a pu enrichir certains terroirs qui étaient absolument incultes ou inaccueillants, complètement inhospitaliers. On a pu les... Et c'est la main de l'homme. Il y a des exemples, il y en a des milliers en France, de bocages dans les endroits qui étaient complètement incultes. Le Marais Poitevin, alors là, c'est un cas extrême. Mais plein je ne voudrais même pas citer ces noms-là. Il y en a partout des endroits où on a vraiment gagné, mais avec une nature encore plus généreuse. Je le répète, être vivant, même si c'est être autre, ça veut dire... voilà. Et puis de toute manière, je disais, même par la respiration, par tout ce que l'on veut, on est en situation de complémentarité, d'échange et de synergie. Pas à 100%, mais en règle générale, un arbre qui est à sa place, il va être en situation de positive de prodiguer des choses. Je répète, il rend plus accueillant, plus confortable, plus consommable, plus vivable. Pas de plante, on est mort.
Bruno, merci.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.